Shallan plongea la main dans la poche située à l'intérieur de sa sage manche et en tira d'autres sphères pour remplacer celles qui faiblissaient dans le gobelet. Cependant, celles qui apparurent dans sa main étaient entièrement éteintes. Il n'y avait plus le moindre soupçon de flamme en elles. Elle fronça les sourcils. Celles-ci avaient été rechargées au cours de la dernière tempête majeure, placées dans un panier attaché au mât du navire. Celles que contenait son gobelet dataient de deux tempêtes, raison pour laquelle elle commençait à s'épuiser. Comment celle que contenait sa poche s'était-elle éteinte plus vite? Voilà qui défiait toute raison. Déclara Motif depuis le mur, près de sa tête. Mensonge. Shallan replaça les sphères dans sa poche, puis ouvrit la porte donnant sur l'étroit escalier qui menait aux cabines et se dirigea vers celle de Jasna. C'était la cabine qu'occupaient habituellement Tosbeck et son épouse, mais il l'avait quittée pour la troisième et plus petite des cabines afin de fournir un meilleur logement à Jasna. Les gens faisaient ce genre de choses pour elle, même lorsqu'elle ne leur demandait rien. Jasna aurait des sphères que Shallan pourrait utiliser. Sa porte était entr'ouverte et oscillait légèrement tandis que le navire tanguait en grinçant le long de son trajet du soir. Jasna se trouvait à l'intérieur, assise à son bureau, et Shallan risqua un coup d'œil dans la pièce, se demandant soudain si elle souhaitait la déranger. Elle apercevait le visage de Jasna, la main contre sa tempe, qui regardait fixement les pages déployées devant elle. Ses yeux étaient hagards, son expression défaite. Ce n'était pas la Jasna que Shallan avait l'habitude de voir. Sa confiance avait été terrassée par l'épuisement, son assurance remplacée par l'inquiétude. Jasna se mit à griffonner, mais s'arrêta au bout de quelques mots. Elle posa sa plume, ferma les yeux et se massa les tempes. Quelques sprènes à l'air hébété, semblables à des jets de poussière s'élevant dans les airs, apparurent autour de sa tête, des sprènes d'épuisement. Shallan recula. Elle eut soudain l'impression d'avoir surpris un moment intime. Jasna, avec toutes ses défenses baissées. Elle voulut s'éloigner discrètement, mais une voix provenant du sol lança soudain. « Vérité !» Surprise, Jasna leva les yeux, qui trouvèrent Shallan, laquelle, bien entendu, rougit furieusement. Jasna baissa les yeux vers Motif sur le sol, puis retrouva son masque et se redressa pour s'asseoir dans une posture plus convenable. « Oui, mon enfant. J'avais besoin de sphères, » déclara Shallan. « Celles de ma bourse sont éteintes. Avez-vous spiricanté ?» lança Jasna d'une voix brusque. « Pardon ? Non, Clarissime. Je vous ai promis de ne pas le faire. » « Dans ce cas, il s'agit du second pouvoir, » assura Jasna. « Entrez et fermez cette porte. Il faut que je parle au capitaine Tosbeck. Elle ne se verrouille pas correctement. » Shallan entra dans la pièce et repoussa la porte, dont le loquet ne s'enclencha pas. Elle s'avança, embarrassée, en joignant les mains. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Jasna. « Ça impliquait de la flamme, je suppose. »« Il semblerait que j'ai fait apparaître des plantes, » répondit Shallan. « Enfin, simplement leur couleur. L'un des marins a vu le pont devenir vert, mais tout a disparu quand j'ai cessé de penser aux plantes. » « Oui, » répliqua Jasna. Elle feuilleta l'un de ses livres et s'arrêta sur une illustration. Shallan l'avait déjà vue. Elle était aussi ancienne que le vorinisme. 10 sphères reliées par des lignes dessinaient une forme évoquant un sablier renversé sur le côté. 2 des sphères centrales ressemblaient presque à des pupilles. L'œil double du Tout-Puissant. 10 essences, déclara Jasna tout bas en faisant courir ses doigts sur la page. 10 flux, 10 ordres. Mais que faut-il y comprendre si les sprènes ont enfin décidé de nous rendre les serments? Et combien de temps me reste-t-il? Pas très longtemps. Pas très longtemps.
Clarissime? Demanda Shallan.
Avant votre arrivée, lui répondit Jasna. Je pouvais croire être une anomalie. Je pouvais espérer que la fluctomancie n'était pas en train de revenir à grande échelle. Je n'ai plus cet espoir désormais. Ce sont les cryptiques qui vous ont envoyé à moi. Je n'ai aucun doute sur ce point, car ils savaient que vous auriez besoin de formation. Ce qui me laisse espérer que j'ai au moins été l'une des premières.
Je ne comprends pas.
Jasna leva les yeux vers Shallan et soutint son regard avec intensité.
Elle avait les yeux rouges de fatigue. Jusqu'à quelle heure travaillait-elle? Chaque soir, lorsque Shalane allait se coucher, de la lumière filtrait encore sous la porte de Jasna. « Pour être franche, » répliqua Jasna, « je ne comprends pas non plus. »«
Est-ce que tout va bien ?» demanda Shalane. « Avant que je n'entre, vous sembliez... préoccupée. »
Jasna hésita un très bref instant. « J'ai simplement consacré beaucoup trop de temps à mes recherches. » Elle se tourna vers l'une des malles et en tira une bourse de tissu sombre remplie de sphères. « Prenez celle-ci. Je vous conseille de conserver des sphères sur vous en permanence, afin que votre fluctomancie puisse se manifester. »«
Pouvez-vous m'y former ?»
demanda Shalane en prenant la bourse. « Je n'en sais rien, » répondit Jasna. « Je vais essayer. » Sur ce schéma, l'un des flux est connu sous le nom d'illumination, la maîtrise de la lumière. Pour l'heure, je préférerais que vous vous consacriez à l'apprentissage de ce flux plutôt qu'à la spiricantation. C'est un art dangereux, bien plus aujourd'hui qu'auparavant. Shalane hocha la tête et se leva. Elle hésita toutefois avant de partir.
Vous êtes sûr que tout va bien?
Bien entendu. Elle avait répondu trop vite. Cette femme était pleine d'assurance et de maîtrise, mais elle était aussi manifestement épuisée. Son masque se craquelait, et Shalane entrevoyait la vérité.
« Elle cherche à me rassurer, » comprit Shalane, « à me tapoter la tête avant de me renvoyer au lit, comme un enfant réveillé par un cauchemar. »
« Vous êtes inquiète, » déclara Shalane en croisant son regard. Jasna se détourna. Elle poussa un livre par-dessus une forme qui se tortillait sur sa table. Un petit sprène violet. Un sprène de peur. Un seul, certes, mais tout de même.
« Non, »
murmura Shalane.
« Vous n'êtes pas inquiète. Vous êtes terrifiée.
Père des tempêtes. »« Tout va bien, Shalane, » répondit Jasna. « J'ai simplement besoin de sommeil. Retournez à vos études. » Shalane s'assit sur le tabouret près du bureau de Jasna. L'érudite la regarda, et Shalane vit son masque se fissurer encore davantage. Elle lut de la contrariété dans la façon dont Jasna pinçait les lèvres, de la tension dans la façon dont elle tenait sa plume au creux de son poing.
« Vous m'avez dit que je pourrais prendre part à tout ça, » insista Shalane. « Jasna, si quelque chose vous inquiète,
je m'inquiète pour les mêmes raisons que d'habitude, » répliqua Jasna en se laissant aller sur sa chaise. « Arriver trop tard, être incapable de faire quoi que ce soit de significatif pour arrêter ce qui approche, essayer d'arrêter une tempête majeure en soufflant très très fort contre elle. »
« Les néantifères, » répondit Shalane. Les parches.
Dans le passé, déclara Jasna, la désolation. La venue des néantifères était systématiquement annoncée par le retour des héros afin de préparer l'humanité. Ils formaient les chevaliers radieux, qui connaissaient alors un afflux de nouveaux membres.
Mais nous avons capturé les néantifères,
commenta Shalane, et nous les avons réduits en esclavage. C'était là le postulat émis par Jasna et Shalane pour avoir vu ses recherches lui donner raison.
Donc vous pensez qu'une sorte de révolution se prépare? Que les parches vont se retourner contre nous comme ils l'ont fait par le passé?
Oui, acquiesça Jasna en feuilletant rapidement ses notes. Et bientôt. Le fait que vous vous soyez révélée fluctomancienne ne me rassure en rien, car ça rappelle beaucoup trop ce qui s'est déjà produit. Mais à l'époque, les nouveaux chevaliers avaient des professeurs pour les former, des générations de traditions. Nous n'avons rien de tout ça.
Les néantifères sont captifs, répondit Shalane en jetant un coup d'œil vers Motif.
Il reposait sur le sol, presque invisible, et ne disait rien.
Les parches sont à peine capables de communiquer. Comment pourraient-ils mettre au point une révolution?
Jasna trouva la page qu'elle cherchait et la lui tendit. Rédigé de sa propre écriture, il s'agissait du compte-rendu, par l'épouse d'un capitaine, d'une attaque de plateau dans les plaines brisées. « Les Parchendi, » expliqua Jasna, « peuvent chanter sur la même cadence quelle que soit la distance qui les sépare. Ils possèdent un mode de communication qui nous échappe. Je ne peux que supposer que leurs cousins, les Parches, possèdent le même. Ils n'ont peut-être pas besoin d'entendre un appel à l'action pour se révolter. »
Shalane lut le rapport et hocha lentement la tête. « Jasna, nous devons avertir les autres. »
Ne croyez-vous pas que j'ai essayé? J'ai écrit à des érudits et à des rois du monde entier. La plupart me croient paranoïaque. Ces preuves que vous acceptez sans hésiter, d'autres les jugent trop peu solides. Les ardents étaient mon meilleur espoir, mais leurs yeux sont voilés par l'ingérence de la hiérocratie. Par ailleurs, mes croyances personnelles les rendent sceptiques vis-à-vis de mon discours. Ma mère souhaite voir mes recherches, ce qui est déjà un début. Mon frère et mon oncle me croiront peut-être, et c'est pour cette raison que nous allons les trouver. Elle hésita. Il y a un autre motif derrière notre départ pour les plaines brisées. C'est un moyen de trouver des preuves susceptibles de convaincre le monde.
Uri Tirou, répondit Shallan. La cité que vous recherchez?
Cette fois encore, Jasna se tourna vivement vers elle.
C'était pour avoir lu en secret les notes de Jasna que Shallan avait appris l'existence de la cité ancienne.
Vous rougissez toujours trop facilement dans les situations de conflit, observa Jasna.
Je suis désolée.
Et vous vous excusez trop facilement.
Je suis... indignée?
Jasna sourit et reprit la représentation de l'œil double qu'elle regarda fixement. Il y a un secret caché quelque part dans les plaines brisées. Un secret qui concerne Uri Tirou.
Mais vous m'avez dit que la cité ne s'y trouvait pas.
En effet. Mais le chemin qui l'y mène s'y trouve peut-être. Elle pinça les lèvres. Selon la légende, seul un chevalier radieux pouvait ouvrir la voie.
Heureusement que nous en connaissons deux.
Je le répète, vous n'êtes pas une radieuse et moi non plus. Être capable de reproduire certaines des choses dont ils étaient capables n'a peut-être aucune importance. Nous ne possédons ni leur tradition, ni leur connaissance.
Nous sommes en train de parler de la fin potentielle de la civilisation elle-même, n'est-ce pas?
Demanda Shallan tout bas. Jasna hésita.
Les désolations, reprit Shallan. Je sais très peu de choses, mais les légendes...
Après chacune d'entre elles, l'humanité était brisée. De grandes cités réduites en cendres, l'industrie effondrée. Chaque fois, le savoir et la croissance sont retombés à un niveau quasi préhistorique. Il a fallu des siècles de reconstruction pour restaurer la civilisation à son état précédent. Elle hésita. J'espère constamment me tromper.
Uri Tirou, reprit Shallan.
Elle s'efforçait de ne pas faire que poser des questions, cherchant plutôt à découvrir la réponse à force de raisonnement.
D'après vous, la cité était une sorte de base ou de foyer pour les chevaliers radieux. Je n'en avais jamais entendu parler avant de m'entretenir avec vous, et j'en déduis que la documentation n'y fait pas souvent référence. Dans ce cas, peut-être s'agit-il de l'un de ces éléments dont la hiérocratie a effacé la connaissance.
Très bien, approuva Jasna. Je crois qu'elle avait déjà commencé à acquérir un statut légendaire avant cette époque. Mais la hiérocratie n'a sans doute pas aidé.
Donc, si elle existait avant la hiérocratie, et si le chemin qui y conduisait a été verrouillé lors de la chute des radieux, peut-être renferme-t-elle des documents auxquels les érudits modernes n'ont pas eu accès. Des récits non modifiés au sujet des néantifères et de la fluctomancie.
Shallan frissonna.
Voilà la vraie raison de notre départ pour les plaines brisées.
Jasna sourit malgré son épuisement. Très bien, en effet. Le temps que j'ai passé au Palané s'est révélé très utile, mais décevant par certains aspects. Quoique j'ai vu confirmer mes soupçons au sujet des parches, j'ai découvert qu'une grande partie des documents de la bibliothèque comportait des signes suggérant qu'ils avaient été modifiés de la même manière que d'autres que j'ai lus. Ce nettoyage de l'histoire, consistant à supprimer les références directes à Uri Tirou, ainsi qu'aux radieux, car le vorinisme les percevait comme embarrassants. C'est exaspérant. Et les gens me demandent pourquoi je suis hostile à l'Église. J'ai besoin de sources primaires. Et puis il y a les récits, ceux auxquels j'ose me fier, qui affirment qu'Uri Tirou était sacré, protégé des néantifères. Ce n'étaient peut-être que des rêves pris pour des réalités. Mais ma nature d'érudite ne m'empêche pas pour autant d'espérer que ces choses-là puissent être vraies.
Et les parches?
Nous allons tenter de convaincre les Aléti de s'en débarrasser.
La tâche ne sera pas facile.
Presque impossible même, répondit Jasna en se levant. Elle se mit à ranger ses livres pour la nuit en les plaçant dans sa malle étanche. Les Parches sont des esclaves si parfaits, dociles, obéissants. Notre société se repose désormais beaucoup trop sur eux. Les Parches n'auraient pas besoin de devenir violents pour nous faire sombrer dans le chaos, même si j'ai la certitude que c'est là ce qui se prépare. Il leur suffirait de s'en aller. Il en résulterait une crise économique. Elle referma la malle après en avoir tiré un ouvrage, puis se retourna vers Shallan. Il nous est impossible de convaincre le monde de ce que j'avance sans davantage de preuves. Même si mon frère m'écoute, il ne possède pas l'autorité nécessaire pour obliger les hauts princes à se débarrasser de leurs Parches. Et en toute franchise, je crains que mon frère ne soit pas assez courageux pour risquer l'effondrement qui en résulterait si nous chassions les Parches.
Mais s'il se retourne contre nous, cet effondrement se produira malgré tout.
Oui, répondit Jasna. Vous le savez, et moi aussi. Ma mère le croit peut-être. Mais le risque de nous tromper est tellement immense que... Eh bien, nous aurons besoin de preuves, écrasantes et irréfutables. Par conséquent, nous devons trouver cette cité. Quoi qu'il nous en coûte, nous devons la trouver.
Shallan acquiesça.
Je ne voulais pas faire reposer tout ça sur vos épaules, mon enfant, déclara Jasna en se rasseyant. Cependant, je dois bien admettre que c'est un soulagement de parler de ces choses-là à quelqu'un qui ne me défie pas constamment.
Nous allons y arriver, Jasna, répondit Shallan. Nous allons voyager jusqu'aux plaines brisées et découvrir Uri Tirou. Nous obtiendrons ces preuves et convaincrons les autres de nous écouter.
Ah, l'optimisme de la jeunesse, répliqua Jasna. C'est agréable à entendre, de temps en temps. Elle tendit le livre à Shallan. Parmi les chevaliers radieux, il existait un ordre connu sous le nom de Tisflamme. Je sais fort peu de choses à leur sujet, mais de toutes les sources que j'ai lues, c'est celle qui renferme le plus d'informations. Shallan prit l'ouvrage avec empressement.
« Le livre des radieux », annonçait son titre.
« Allez-y, » lui dit Jasna. « Lisez-le. » Shallan leva les yeux vers elle. « Je vais dormir, » promit Jasna, un sourire naissant sur ses lèvres. Et arrêtez d'essayer de me materner. Je n'autorise même pas Navani à le faire.
Shallan soupira, hocha la tête et quitta les appartements de Jasna. Motif la suivit. Il avait gardé le silence pendant toute la conversation. Alors qu'elle entrait dans sa cabine, elle s'aperçut qu'elle avait le cœur beaucoup plus lourd que lorsqu'elle l'avait quitté. Elle ne parvenait pas à oublier cette terreur lue dans le regard de Jasna.
Jasna Colline n'aurait dû avoir peur de rien, n'est-ce pas ?
Shallan se glissa sur sa couchette, avec le livre qu'elle avait reçu et la bourse de sphère.
Une partie d'elle était impatiente de commencer, mais elle était épuisée et ses paupières lui semblaient lourdes. Il se faisait vraiment tard. Si elle commençait ce livre maintenant, mieux valait peut-être prendre une bonne nuit de sommeil, puis se plonger dans une nouvelle journée d'études une fois reposée. Elle posa le livre sur la petite table près de son lit, se pelotonna et laissa le balancement du navire la bercer jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle fut réveillée par des hurlements, des cris et de la fumée.